Voilà, nous revoilà revenus donc à Aleph, donc toujours à Caen sous la neige, et en duplex de Lisieux avec Alain. Bonjour Alain.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
Alors il fait beau chez vous ?
Il fait un temps magnifique, écoute, un soleil radieux, des températures bien au-dessus de la moyenne.
C'est quoi, tu la moyenne 1,5 ?
Non, en fait, je déconne, déjà il fait nuit et en fait il neige pas encore, mais je pense que ça serait...
Bon, ça va venir, donc il n'y a plus un seul but sur quand tu 19h, c'est génial. Je sens qu'on va s'amuser. En tout cas, c'est la crise, même au niveau de la météo, et on va aujourd'hui vous parler d'une autre crise, Identity Crisis, qui a...
Comme c'est bien amené.
Il y en a qui préparent leur sujet, là. Et donc, qui sort ce mois de janvier, demain, donc le 13 janvier, chez Panini, donc dans un album de luxe, en une seule fois. Donc cette série, qui est quand même une série événement, et qui va avoir troublé l'univers des comics, pas seulement chez DC, mais aussi chez Marvel. Identity Crisis a amené un défilé de crossover chez DC, qui continue aujourd'hui avec Blackest Night, et qui a introduit effectivement un défilé identique chez Marvel, qui a amené notamment un Civil War. Donc, c'est l'œuvre de deux auteurs qui sont Brad Meltzer et évidemment Ralph Morales. Alors, qu'on appelle généralement Rags, mais effectivement son prénom c'est Ralph. Donc, le plus que. Celui qui a. Pardon ?
Il a bien fait de changer.
Voilà. Celui qui a la carrière la plus longue, effectivement, c'est Rags Morales qui a commencé dès 88 chez DC. À l'époque, il a fait une série qui s'appelait Black Condor. Série que je suis, je crois, le seul à avoir encore.
Oui, il doit être le seul, effectivement.
Et ensuite, il est passé directement chez Valiant, où il a fait Turok, Archer and Armstrong ou Geomancer, avant que la société arrête. Et donc, il est revenu un peu plus tard chez DC, toujours avec Tony Bedard, qu'il a connu là-bas, et sur des séries comme Orman. Mais son vrai succès, il est venu justement d'Identity Crisis, qui lui a permis ensuite d'accéder à plein d'autres séries, notamment à Hawkman, à Nightwing, à Wonder Woman. Donc Rags Morales, c'est vraiment le dessinateur qui a été un sleeper longtemps et qui a vu sa notoriété naître vraiment sur ce titre. Le scénariste, c'est un peu tout le contraire. Brad Meltzer est quelqu'un de très connu parce qu'il vient de la télé-réalité. Il a en fait commencé en télé-réalité à côté de Jude Winnick, donc dans une émission où on les faisait cohabiter différents créateurs dans une espèce de mélange entre ce que serait Love Story et un reportage sur la vie des jeunes artistes dans New York. Donc ils avaient une espèce de colocation gratuite où en fin de compte ils vivaient dans ce logement. L'émission devait s'appeler Bacon Hill, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, ça, c'était en 88. Il a travaillé sur beaucoup de romans. Il a sorti des romans à peu près tous les ans de 98 à 2002, avant de faire un passage aux comics et un retour ensuite, après ça, aux romans et aux séries télé. Ce qu'il a écrit en comics depuis marquant, c'est évidemment Identity Crisis, notamment parce que c'était la série à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Après ça, il a fait d'autres séries qui, elles, ont eu des succès moindres. Il a fait un arc de Green Arrow en succédant à Kevin Smith. C'était pas forcément le plus simple. Et surtout, il a relancé la série Justice League America actuelle, qui a été, au niveau critique, pas descendu, mais vraiment pas encensé. Et du coup, derrière, il ne s'est pas relancé au niveau comics. Donc on va du coup vous parler des auteurs, mais aussi de la série, parce que la série en elle-même vaut son pesant de cacahuètes. La série ouvre sur un fait tragique. Le viol et le meurtre de Sue Dibney, femme d'Elongated Man, qui était un des éléments comiques de la Justice League dans les années 80, qui avait effectivement, qui était peu apparu depuis la fin de Justice League Europe, et qui là est quand même sauvagement assassinée par un super vilain qui semblerait avoir retrouvé les origines de ce personnage. Et au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte que les super-héros des années 70, l'époque Justice League sur le satellite, n'étaient pas tellement des enfants de cœur. Puisque, pour préserver leurs identités secrètes, ils avaient utilisé les pouvoirs de Zatanna pour faire des lavages de cerveau aux différents super-vilains qu'ils rencontraient qui pouvaient être amenés à connaître leurs identités. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qui pouvait, à leur niveau, sembler se justifier. Là où ça prend un tour un peu différent, c'est que Batman, évidemment, était contre ce type de lavage de cerveau et qu'on a aussi lavé le cerveau à Batman pour qu'il oublie qu'on faisait des lavages de cerveau aux autres. Et c'est un peu une guerre civile qui se met en place au niveau des super-héros, une vraie guerre d'idéologie et évidemment une enquête pour savoir qui a tué Sue Dibney. Donc c'est vraiment une série plaisante qui est très bien écrite, bien dessinée. C'est une enquête policière avant tout, donc on va éviter de vous révéler trop de choses sur la manière dont ça fonctionne. Mais vraiment, c'est à lire. Ça a vraiment marqué, quand est sorti en 2004, profondément les personnages. Ça a amené, comme je vous disais, à d'autres crossovers qu'on suivit. Il est bien évident que des séries comme Final Crisis n'auraient pas eu le même impact sans ça. Ça amène aussi indirectement à 52, puisque Ralph Dibney est un des personnages de 52. Et voilà, donc la mort de Sue va laisser des marques chez tous les super-héros, encore aujourd'hui, et pas seulement pour son mari. Pour tous les gens qui auraient repris DC en version française en cours, c'est vraiment à lire, parce que ça va permettre une meilleure approche de tous les crossovers qu'on a qui peuvent être sortis depuis. Alors, toi, je ne sais pas si tu l'as lu, là.
J'ai commencé, j'ai pas vraiment eu la fin, mais j'en ai lu une bonne partie, et en gros, je partage.
Voilà, c'est quand même, au niveau de l'écriture, très bien écrit. Même si Brad Meltzer a peu d'expérience, c'est quand même un romancier à la base. C'est pas le premier qu'on embauche chez DC, d'ailleurs. Et généralement, ils ont toujours eu un résultat assez efficace sur la manière dont ils fonctionnaient. Moi, je ne peux que vous encourager à acheter cet album. Il sort donc normalement demain. Il fait 320 pages et coûte 28 €. Ce qui est bon et cher en soi, mais c'est quand même un album luxueux en format hardcover. Et on a eu dans ces formats de luxe des choses qui le méritaient quand même nettement moins. Alors juste, je vous dis une bêtise. 320 pages, 28 €, c'est une Marvel qui sort le même jour. Là, il fait 240 pages. Je disais 320 pages, c'est un peu beaucoup. Et il fait 30 €. Bah oui, c'est du DC, on le vend toujours plus cher chez Panini. Alors, quand
comme
on
ça coûte... moins, comme ça se vend moins, il faut rentabiliser un peu le...
Bah, c'est vrai que ça se vend nettement moins. En tout cas, c'est une réduction qui vaut le coup. Par contre, effectivement, 30 € pour 240 pages, on commence à être effectivement dans un format qui devient très cher, là, du coup. En tout cas, c'est une bonne série. Elle est également disponible, du coup, si vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, en TPB sur tous les bons sites de librairie qui vous font de l'import. Et là, ça va vous coûter, je pense, 2 à 3 fois moins cher.
Oui, effectivement, il y a des grandes chances.
Ouais. En tout cas, c'était quand même déjà sorti en version française chez Panini. Oui, c'était Panini, je crois, déjà à l'époque. Et donc, vous pouvez toujours faire le bookinglist pour tenter de retrouver cette version.
Voilà.
Voilà, donc, eh bien, c'est donc tout ce qu'on peut dire. C'est vrai que c'est très difficile dans ces cas-là de vous parler d'une intrigue policière. Donc, on n'en dira pas plus sur l'intrigue principale. Mais c'est vrai que tout le fil rouge sur la manière dont est intervenue la Justice League est aussi très intéressante. C'est ce qui a amené aussi à la destruction complète de la Justice League à l'époque et à des séries où, à chaque histoire, on changeait le casting de la Justice League. Je crois que c'était dans la série Superman Batman, donc première du nom, que ça sortait à l'époque.
Panini, oui, c'était Superman Batman.
Voilà, donc qui n'est pas celle qui sort actuellement qui doit s'appeler Batman Superman.
Ou c'est le contraire. C'est compliqué.
Voilà. En tout cas, c'est sorti à l'époque, je crois, en 3 ou 4 tomes. Et ça doit donc être disponible chez les bons libraires d'occasion.